comme vous le savez, Dr Barrette, Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, député de Lapinière, médecin de son État, est avec nous à peu près à chaque jour et c'était pas dans vos sujets. Dr Barrette, mais on va quand même parler de ça tout de suite. Bonjour.
Bonjour.
Donc, écoutez, oui, la conférence de presse a lieu présentement. Je peux pas voir ce que la mairesse dit. Philippe Quentin est en train de la regarder. Ça se peut qu'il intervienne dans votre intervention. Mais on parle, Dr Barrette, de l'état d'urgence se prépare à Montréal avec la police pour contrôler les déplacements. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement?
Ben, c'est accentuer la mesure de confinement. C'est clair. Ce n'est que ça. Mais en même temps, c'est étonnant. C'est le genre de choses qui a dû être décidé certainement avant 4 heures. Et ça me surprend qu'on annonce ça à cette étape-ci, parce que ce qu'on comprend, c'est que ça vient de la direction de la santé publique du Québec, donc du docteur Arruda. Il était en conférence de presse à 13 heures. Il nous a clairement dit que là, on n'était pas rendu à fermer Montréal, mais il me semble que ça devait être clair à ce moment-là qu'il y avait des raisons de faire les mesures d'urgence. Moi, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Ils doivent se dire qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est des messages un petit peu contradictoires dans le temps.
C'est ça, parce qu'en point de presse, pour le préciser, on en a parlé, M. Legault, Dr Arruda, Mme McCann, ont pas éludé les questions, là, Dr Barrette. Ils ont répondu, ont dit qu'aucun scénario n'était exclu. Mais là, c'est vrai que, pardon, quelque chose comme 2 heures après la fin de la conférence de presse, on apprend ça. Et vous trouvez qu'il y a comme un double message ici, là.
Ben moi, je trouve qu'il y a une certaine confusion là, pour le citoyen qui nous écoute, là. Comment ça se fait qu'à 13 heures, on n'en a pas parlé?
Oui.
Moi, fermer Montréal, c'est une chose qui peut se faire. Fermer une autre ville, c'est quelque chose qui peut se faire. On fait ça lorsqu'on a des soupçons d'accélération de la propagation ou de nouveaux foyers d'éclosion dans une sous-région ou une région donnée. Vous savez, moi, Montréal, est-ce qu'on veut fermer Montréal pour que Montréal ne sorte pas ou est-ce qu'on veut fermer Montréal parce que d'autres régions qui sont contaminés ont tendance à venir à Montréal. Il faut le voir dans ce sens-là aussi. Je prends comme exemple le paquet de Montréalais qui s'en vont dans leur chalet dans le canton de l'Est. Moi, je suis à Montréal, j'en ai un là-bas, puis ma famille est à Sherbrooke, puis j'y vais pas. Alors, est-ce que c'est de ça qu'ils ont peur? Est-ce qu'on on fait ces hypothèses-là à cause de ça? Ou on annonce des mesures? Là-dessus, je pense qu'on aurait pu être plus transparent, personnellement.
OK, parfait. Écoutez, on va revenir à la question de l'état d'urgence local à Montréal. C'est comme ça qu'on qualifie ça. Mais, Dr Barrette, je veux qu'on parle du bilan, OK, parce que on fait une sorte de... On regarde les chiffres, ça monte, et chaque jour, vous le dites, là, faut pas paniquer, c'est normal, ça monte, parce qu'on teste davantage. Cependant, parlez-nous de l'importance de l'indicateur suivant, c'est-à-dire les patients qui sont aux soins intensifs, qui est un indicateur là, du succès ou de l'insuccès en matière de lutte à la COVID-19.
C'est exactement ça. C'est l'indicateur du succès ou de l'échec. Mais l'échec, il ne faut peut-être pas prendre ça comme
ça.
De nos mesures. Là. On en a mis des mesures, puis c'est exactement ce qu'il fallait faire. On teste du monde. La majorité du monde qu'on teste ne sont pas nécessairement des personnes âgées. Il y a du monde qui sont dans la société, qui circulent, qui n'ont pas été testés, et qui sont porteurs. Alors, il y a une inconnue à la case départ. Mais il y a quelque chose d'absolument fiable, c'est le point d'arrivée, là.
Oui.
Alors, les soins intensifs, c'est le reflet de notre succès ou de notre demi-succès ou de pas de succès du tout. Si ces chiffres-là ne se mettent pas à monter en flèche, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, au moment où on se parle, on n'est pas capable de le dire parce qu'on est trop tôt. Par contre, dans la prochaine semaine, je le mets là, au maximum dans 7 jours, et c'est probablement avant, la croissance de ces chiffres-là va nous indiquer si on réussit, on est en train de réussir ou non. Là, on a eu une augmentation de 7. Demain, je suis convaincu qu'on va en avoir une autre. Si on passait de 50 patients aux soins intensifs aujourd'hui à 150, puis c'est pas une blague, là, ça serait inquiétant. Si on parle de 50 à 55 ou à 57, c'est rassurant. Mais les prochains jours vont nous dire exactement dans quel sens qu'on s'en va.
Doc, je vous mets sur pause parce que Philippe Quentin, qui regardait la conférence de presse de Mme Plante, vient de revenir en studio. Philippe?
Oui, tout à fait. Alors, l'état d'urgence local est déclaré sur le territoire de Montréal. En revanche, la mairesse précise une chose. La ville n'est pas en confinement. La ville n'est pas en quarantaine. Cependant, elle dit qu'il faut des pouvoirs additionnels, notamment pour éviter, là je reprends ces mots, que la crise sanitaire ne devienne une crise humanitaire. Alors là, c'est beaucoup des mesures en place qui sont à l'intention de la population itinérante de Montréal. Parce qu'on sait, les refuges sont souvent pleins à craquer. On ne peut pas continuer à ce qu'ils accueillent autant de monde. Ça prend de la distanciation sociale. Alors, on va créer de nouveaux endroits, notamment la population itinérante qui sera affectée par la COVID-19. On va réquisitionner l'ancien hôpital Royal Victoria pour les accueillir et on va aussi trouver de nouveaux endroits pour des refuges.
Philippe, Radio-Canada annonçait là, il y a quelques minutes, selon nos sources, les autorités se préparent aussi un système pour vérifier les entrées et sorties de l'île, mais il ne serait pas question de le mettre en place pour l'instant. Et on dit que, bon, on pourrait limiter, par exemple, les déplacements à une personne par famille pour aller à l'épicerie. Est-ce que ça a été mentionné?
Non, dans le moment, ce n'est pas mentionné. Ce qu'a dit Mme Plante, en revanche, c'est que si on devait se rendre à des mesures plus musclées, ça serait fait de concert avec le gouvernement et qu'on prendrait le temps de bien faire les choses, de bien préparer les gens.
Parfait. Je te laisse retourner à la conférence de presse. On retourne à Dr Barrette. OK, Dr Barrette, si je comprends bien, là, on peut bien regarder le nombre de cas, OK, qui augmente, mais... Si chaque pays a son modèle pour tester, c'est un indicateur qui est fiable, mais pas super fiable. Ce qui est super fiable, c'est le nombre qui est malade, le nombre de personnes malades et le nombre de personnes qui se rendent aux soins intensifs. Ça, qu'importe comment on teste, ça ne ment pas, c'est ça?
Exactement. Quand on regarde, comparons les deux pays dont on a entendu parler beaucoup, beaucoup, la Corée du Sud, l'Italie. Ces deux pays-là là, ont testé. Là. Ils ont testé, il y en a eu plein de cas détectés positifs. Là. Mais regardez la différence entre les patients qui ont été hospitalisés, soins intensifs et décès. Parce que quand on arrive aux soins intensifs, là, si ça ne va pas bien, on décède. Là, on le comprend. La majorité va sortir des soins intensifs, mais quand même. Regardez l'Allemagne, c'est la même affaire. L'Allemagne là, a testé des dizaines, ils sont à 60 000 personnes de testées. C'est un des pays qui a le taux de mortalité le plus bas. Pourquoi? Bien, ça veut dire qu'on les a attrapés tôt, on les a confinés, on a brisé la chaîne de propagation, on a réussi à faire en sorte que tout le monde se rend pas aux soins. Alors, les soins là, en intensif, l'hospitalisation aussi, c'est deux paramètres qui sont les marqueurs du succès de ce que l'on fait. Alors, les chiffres qu'on a aujourd'hui à cet égard-là sont bons, mais on est encore dans des petits chiffres. Alors, il faut quelques jours encore pour pouvoir être assuré de la courbe vers la courbe qu'on va avoir, aplatie ou pas aplatie, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à dire.
OK. Toujours dans le but d'éviter que les hôpitaux soient submergés puis qu'on ait à faire des choix absolument déchirants du genre qu'on a vu en Italie. Toi, on va te soigner parce que tu as 40 ans, mais vous, monsieur, à 72 ans, on ne vous soignera pas parce qu'on a moins de chances de vous sauver. C'est ça, la game.
Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, au point de presse, il y a eu une information très importante. Vous savez, on a ralenti énormément dans le réseau. Là, écoutez, on ne peut pas être plus ralenti que ça. Les chirurgies électives sont arrêtées. Là, pour se faire opérer aujourd'hui, par exemple, il faut que ce soit en urgence, littéralement, ou qu'on ait un cancer qui faut absolument opérer. Alors, quand on écoute ça, on écoute la ministre ce midi, là, puis elle nous a dit, de mémoire, là, c'était au-dessus de 550 lits de soins intensifs de disponibles aujourd'hui. Parfait. Ça veut dire que le système de santé qui est au ralenti génère à peu près 600 lits d'occupés aux soins intensifs. Okay. C'est quoi notre capacité au Québec? 1200.
Okay.
Ça veut dire que pour rouler au ralenti, là, ça nous en prend 600. Bien, suivez les soins intensifs à tous les jours. Là, à partir du moment où on s'approche de 600, vous savez que plus on se rapproche de ça, vous savez, à partir d'aujourd'hui, là, on arrive dans un point critique.
OK, docteur, juste...
Ils vont vous dire que le point critique est plus bas que ça. Mais vous avez quasiment l'absolu. On est les deux pieds sur le brink, puis on consomme 600 litres de soins intensifs. On en a 1200. That's it. Il n'y a rien d'autre à dire.
Juste pour être clair, là, ce qu'il faut regarder là, pour voir l'état de notre succès, disons, succès relatif, c'est le nombre de personnes aux soins intensifs. Aujourd'hui, on est à 50. Et ce que vous dites, c'est que la capacité pour accueillir des patients de COVID, c'est 600, c'est ça?
Bien, avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, là, c'est exactement ça. Vers 600, à un moment donné, on va traiter des gens en dehors des soins intensifs. Si on se rend là, on va falloir le faire. Pourquoi? Pas pourquoi, parce que ça déborde, mais est-ce qu'on est capable de le faire? Oui, parce qu'on a 3000 ventilateurs au Québec. Et... Normalement, les gens sont sur respirateur mécanique, un ventilateur. On est là-dessus aux soins intensifs. On ne fait pas ça à l'étage, comme on dit dans notre jargon. Alors, si on se rend à ce moment-là, là, on sort des soins intensifs. Et si on sort des soins intensifs, bien là, c'est la capacité d'hospitalisation qu'on a. Alors, si je vous dis ça aujourd'hui, puis que vous avez suivi l'évolution des chiffres, on en a de la marge de manœuvre.
Okay.
On est correct. Mais les prochains jours vont nous le dire, là. Les prochains jours, si ça se met à augmenter rapidement, on va le savoir. Puis on sait que dans la crise, on est au moment qui est juste avant une éventuelle accélération qui, elle, va nous amener vers un pic. Ça, on le sait, ça. Dans tous les modèles, on sait qu'on est là. On sait qu'on est dedans la crise. On ne sait pas où on va aller. On ne sait pas si on va aplanir la courbe. Mais on sait qu'on est au moment où on va commencer à accélérer. Je vous dis simplement que la prochaine semaine, écoutez les points de presse, lisez vos journaux. Vous allez savoir vous-même en l'écoutant si ça dérape ou ça dérape pas, si on est capable de contenir les choses, parce que si on est capable, ben le lit de soins intensifs, lui, il ne sera pas vraiment trop consommé et ça sera la mesure du succès de ce que l'on fait.
On se croise les doigts. Merci beaucoup, Dr. Barrette.
Merci, bonne journée.
On se reparle lundi. C'est Dr. Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, député de Lapinière, qui décortique un peu là pour nous ce qu'on apprend à chaque heure de la journée. Là, en fin de journée au Québec maintenant, il est là pour nous faire un petit topo. Philippe, oui, qu'est-ce qu'on a appris dans la suite du point de presse de Mme Plante?
Tout à fait, Mme Plante qui a fait son allocution, qui a cédé ensuite la parole à la docteur Drouin, mais essentiellement ceci, l'état d'urgence local est déclaré sur le territoire de l'île de Montréal. La ville obtient ainsi des pouvoirs additionnels. La ville de Montréal, en revanche, Patrick, et c'est bien important de le mentionner, n'est pas en quarantaine. Les gens ne sont pas en confinement obligatoire. On n'en est pas là. C'est pas interdit de penser que c'est dans les cartons, peut-être, si la crise s'aggravait, mais Madame Plante a dit qu'on n'en était pas là à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'état d'urgence? Ça veut dire essentiellement qu'on veut faire en sorte que la crise sanitaire, et je reprends ces mots, ne devienne pas une crise humanitaire. Alors, là, on vise principalement la population itinérante de Montréal. On le sait, il y a beaucoup d'itinérants à Montréal. Et les refuges, ben, c'est une problématique là, à l'heure de la transmission du virus. Donc, on veut créer des refuges supplémentaires, au moins 5 sites supplémentaires qui pourraient accueillir 1000 personnes. L'ancien hôpital Royal Victoria, les personnes itinérantes atteintes de la COVID-19 seront traitées là-bas. Et c'est vraiment, dans un premier temps, ce qu'on veut surtout cerner, c'est encadrer la population itinérante.
Parfait. Merci, Philippe. On te retrouve après la pause parce qu'on va voir Michel Leblanc,
ouais,
le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui a fait une entrevue dans la presse aujourd'hui où il parlait du désespoir des entrepreneurs, notamment les petits entrepreneurs. Et ce matin, le gouvernement fédéral qui a envoyé une bouffée d'air frais, une sorte de bouée de sauvetage au PME. On va en parler avec lui tout de suite après la pause. Vous dire aussi que vers 18h, un peu après 18h, là, notre ami François Gagnon va être là. Si vous avez des questions sur les noms